Bonjour à toutes et à tous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 28. On va lire à partir de verset 10 jusqu'à 22. Genèse 28, à partir de verset 10. Jacob partit à Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montait et descendait par cette échelle. C'est 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Verset 15. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu. » Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Parce qu'ici, c'est la parole de Dieu. Jacob avait entrepris un voyage de 850 km de Beersheba, dans le sud d'Israël, à Haran, en Mésopotamie, aujourd'hui la Turquie, près de la frontière syrienne. Il avait parcouru environ 85 km jusqu'à Bethel, ou Luz, comme on l'appelait alors. L'événement rapporté dans Genèse 28, 10 à 22, aurait eu lieu peut-être la deuxième ou plus probablement la troisième nuit après qu'il eut quitté son domicile. Ce n'était pas un moment très heureux pour Jacob. La nuit semble l'avoir rattrapé avant son arrivée à la ville cananéenne de Luz. Il semble que c'était certainement l'époque des juges. L'entrée dans la ville n'était pas facile à trouver, même en plein jour. Vous pouvez voir dans Juges, le premier chapitre, versets 22 à 26. En dehors de cela, les portes de la ville auraient été maintenant fermées pour la nuit. Ça, c'était l'habitude à cette époque. Alors Jacob dormait sous les étoiles. Il avait un autre voyage fatigant de plusieurs semaines à entreprendre. Bien que la route commerciale vers la Mésopotamie soit bien connue et que sa mère Rebecca, qui avait elle-même voyagé dans cette direction, dans la direction opposée, lui ait peut-être donné des indications, le territoire qui attendait était tout à fait étrange et inconnu pour lui et l'endroit où il est maintenant venu, apparemment par accident, était un endroit sombre et sans confort. Vous souvenez, Rebecca, elle vient de cette région pour marier avec son père Isaac. Et maintenant, c'est Jacob qui voyage chez son oncle, comme il était conseillé par ses parents, pour échapper de son frère Isaü. Jacob voyageait léger pour ce si long voyage, pour échapper de la colère de son frère Isaü. Car bien qu'il ait quitté la maison sous l'instruction de son père pour obtenir une femme pour lui-même en Mésopotamie, la raison sous-jacente et réelle de son voyage était sa peur était sa peur d'Isaü. Beaucoup plus tard, dans le chapitre 35, Dieu lui dirait de retourner à Bethel, d'y ériger un autel à Dieu qui t'est apparu lorsque tu avais vu Esaü, ton frère. Mais Dieu connaissait la vraie raison du voyage de Jacob. Un concours de circonstances avait donc poussé Jacob hors de son nid de plumes et de confort. Je vais lire un passage de Deutéronome, chapitre 32, versets 9 à 12. On peut penser que ça parle de Jacob, bien que ça parle des peuples d'Israël, les enfants d'Israël, mais ça parle exactement de la situation de Jacob. Deutéronome 32, versets 9 à 12. « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en prit soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. » Bien que ça parle de peuple Israël, mais il n'y avait pas de peuple Israël à cette époque. Il n'y avait que Jacob, son père Isaac, bien loin. Il a quitté la maison familiale. Il se trouve dans le désert, dans les endroits où il y a des solitudes aux effroyables hurlements. Mais quand nous voyons ce passage de Deutéronome, on sait que parfois Dieu il peut déranger notre position, où on est. Et parfois, nous avons notre maison de confort, la maison parentale, ou ça peut être un autre endroit où vous êtes bien dans le confort. Mais Dieu, il nous prend, il dérange notre confort pour nous amener ailleurs, puisqu'il peut nous rencontrer, puisque nous, on peut rencontrer notre Dieu. Ça, c'était le cas de Jacob ici. Pour autant que nous sachions, Jacob ne transportait que de l'huile, une chose essentielle pour empêcher sa peau de se boursoufler sous le soleil féroce. Et il n'avait que son bâton. Il n'a jamais oublié sa pauvreté et son impuissance à cette époque. Même plus tard, il va parler de ça. Il va dire que je suis parti avec seul un bâton. Il avait rien, mais le Seigneur lui a béni avec beaucoup de choses plus tard dans sa vie. En rentrant chez lui, 20 ans plus tard, il confesse à Dieu. « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités, la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. » Il parle à ses enfants et ses femmes. Il disait qu'il serait reconnaissant de n'avoir que l'essentiel de la vie, assez pour survivre. Jacob n'avait pas de serviteur armé comme Abraham avait précédemment eu. Ses 318 pour le protéger des bêtes sauvages ou des bandits. Il n'était pas non plus un chasseur comme son frère Isaü, qui avait l'expérience de vivre de la terre par l'utilisation de sa lance et de son arc. Non, ce n'était pas un moment heureux pour Jacob. Il n'est pas difficile d'imaginer certains de ses sentiments à ce moment-là. Son sentiment d'appréhension et sa solitude, sans parler de mille et une autres angoisses. En dehors de toute autre chose, Jacob n'avait aucun moyen de savoir si Ésaü avait changé d'avis, s'il avait décidé, plutôt que d'attendre la mort de son père, parce qu'il voulait venger son frère pour tout ce que Jacob il a fait. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Jacob, il a pris le droit d'aînesse qui appartenait à Ésaü. Ésaü l'a vendu son droit d'aînesse pour un soupe de lentilles. Et donc, son père, il est mort beaucoup plus tard, 55 années plus tard. Jacob, il ne savait pas s'il va poursuivre son frère. Si Ésaü va poursuivre Jacob pour le tuer, il était bien sur le talon de Jacob, comme Jacob il était au talon de son frère aîné pendant leur naissance. Dans le chapitre 35, Jacob a appelé à ce point de sa vie le jour de ma détresse. Nous nous lèverons et nous montrerons à Bethel, a-t-il dit à sa famille. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Le jour, c'est-à-dire de mes ennuis, de mon adversité, de mon angoisse. Il y a peut-être une suggestion dans ce mot exaucé, qu'à ce moment précis, Jacob avait appelé l'aide celui qu'il connaissait comme le Dieu de son père. Il n'avait jamais rencontré Dieu, mais il avait toujours cette connaissance, le Dieu de son père, le Dieu de Isaac et Dieu d'Abraham. Regardez le verset 11 de chapitre 28 de Genèse. Le verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Quand le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il a placé une pierre pour mettre à son chevet. Il n'est en aucun cas certain que Jacob l'ait mis sous sa tête pour former un oreiller. Il est au moins possible qu'il ait placé le long de sa tête pour se protéger et s'abriter du vent. On a parlé de vent qui hurlait, et donc protéger et s'abriter du vent. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que la pierre que Jacob a choisie était assez grande et qu'elle a été posée près de Jacob le long du sol, quand nous lisons qu'il l'a plus tard mise en place comme un pilier. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il est peu probable que Jacob utilise une pierre assez grande pour servir pilier à un oreiller. C'est donc là que Jacob se couche tout seul, à l'exception de son bâton et de Dieu. La substance de rêve de Jacob est ponctuée pour nous de quatre phrases introduites chacun par le mot « voici ». Si vous regardez dans le passage, il y a quatre fois cette phrase « voici », il apparaît, au moyen desquels le Saint-Esprit nous invite à témoigner de la scène à travers les yeux de Jacob. Son rêve doit être l'un des rêves le plus remarquable qu'un homme n'ait jamais vécu. Non pas que les rêves étaient le seul moyen ou même la voie habituelle que Dieu était heureux de se révéler à l'époque de l'Ancien Testament, et aucune signification spéciale ou signification surnaturelle ne doit normalement être attribuée aux rêves. Mais il y a eu des occasions où Dieu était heureux de parler aux hommes de cette façon, et c'en était une. Nous devons comprendre que, bien que ce soit sous la forme d'un rêve, Dieu est vraiment apparu à Jacob. Dieu dit plus tard à Jacob de faire un autel à Bethel. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là. Tu dresseras un autel de Dieu et autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Isaü, ton frère. Genèse 35, 1. À la toute fin de sa vie, Jacob a parlé à son fils Joseph, de l'époque où Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Genèse 48, 3. Premièrement, nous voyons, voici une échelle, verset 12, voici une échelle. Il y a une certaine incertitude sur la façon exacte dont le mot devrait être traduit, mais il est probable que ce que Jacob a vu était une échelle telle que nous la connaissons. Bien que le mot hébreu n'apparaisse que ici dans l'Ancien Testament, il existe un mot similaire dans une autre langue ancienne, l'acadienne, qui signifie un escalier ou une rampe. Ce mot particulier apparaît dans l'ancien mythe assyrien ou babylonien, et dans ces mythes, parce que les dieux du ciel ne sont pas descendus aux enfers, ils sont envoyés des messagers, ou vizirs, qui montaient et descendaient ce qu'on appelait l'escalier du ciel. Nous lisons par exemple, Namtar vint le long de l'escalier du ciel. Mais Genèse 28 n'est certainement pas un mythe assyrien ou babylonien ou l'autre. C'était un rêve donné par Dieu, mais ce mythe éclaire peut-être le sens du mot ici. Ce qui nous amène au deuxième voici. Et voici les anges de Dieu montés et descendaient par cette échelle. Et voici les anges de Dieu montés et descendaient par cette échelle. Fait intéressant, Jacob a non seulement vu les anges de Dieu maintenant, qui s'éloignaient de la maison, mais selon le chapitre 32, versets 1 et 2, Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Il était là pour le rencontrer lors de son voyage de retour quelques 20 années plus tard. La première fois ici, Jacob a vu ce rêve. Il voit les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. De toute évidence, l'escalier était assez large pour que les anges montent et descendent simultanément. L'escalier avait une importance particulière pour Jacob dans son sort et sa situation difficile actuelle, parce qu'il était pour lui un symbole visible de rapport et de la communication très réelle et continuelle qui ont eu lieu et ont toujours eu lieu entre le ciel et la terre, et en particulier entre Dieu dans le ciel et son peuple sur la terre. Jacob vit une multitude de serviteurs célestes de Dieu descendre vraisemblablement pour exécuter le commandement de Dieu et fournir assistance et protection à son peuple, et monter probablement pour faire rapport et obtenir de nouvelles instructions pour fournir de l'aide. Cela suggérait le fait d'une véritable communion ininterrompu et étroite entre le ciel et la terre, et en particulier entre Dieu dans sa gloire et l'homme dans sa solitude. Voyez comment, dans quelle situation se trouvait Jacob dans cet endroit où il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il était tout seul, l'homme dans sa solitude, il voit Dieu dans sa gloire. Pour Jacob, le fait était que l'escalier, avec son ministère silencieux et sans faillite, descendait jusqu'à l'endroit où il se trouvait sur la terre. Pauvre, impuissant et humainement parlant, complètement seul et jusqu'à l'endroit où Dieu était, jusqu'à la présence de Dieu lui-même. L'escalier assurait Jacob que Dieu de ses pères, le grand Dieu de la création, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui commandait et dirigeait une myriade des anges puissants, ne s'intéressait pas seulement des hommes tels que ses pères Abraham et Isaac, mais se préoccupait intimement de lui. Oui, ce n'était qu'un rêve, mais le rêve transmettait une merveilleuse réalité à Jacob. Il apprit que bien que sa maison fût maintenant bien derrière lui, et serait bientôt beaucoup, beaucoup plus loin, le ciel lui-même était proche, très, très proche. Environ 2000 ans plus tard, le Seigneur Jésus a clairement indiqué que pour nous, il est l'escalier vers le ciel et Dieu. En référence évidente à cet incident, il dit à Nathanaël, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Le Seigneur Jésus a fait une référence apparente à cet incident et l'a relié à son second avènement et sa future gloire. Ce matin, nous avons chanté dans le cantique « Dit sur l'aile de la foi, le ciel ouvert, le ciel ouvert ». En d'autres termes, Jésus ne nous montre pas le chemin vers le Père. Il est le chemin. Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais quelle belle image que nous voyons dans l'Ancien Testament de ce que Jésus a révélé dans le Nouveau Testament. Il a traversé le gouffre infini qui séparait le ciel et la terre en sa propre personne, fournit un moyen pour l'homme pécheur de venir à un Dieu saint. En lui, Dieu descend vers l'homme. En Jésus-Christ, Dieu descend vers l'homme. Et par lui, l'homme monte à Dieu. Le Seigneur Jésus est la clé de l'accès à Dieu et de la communication avec Dieu. Mais nous n'avons aucun autre moyen d'accéder à Dieu, le Père, le Dieu saint. Et puis, dans le verset 13, nous voyons encore « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de cet escalier ou échelle. » Jacob était sans doute reconnaissant d'avoir pu fuir Ésaü et sa colère. Mais il avait toutes les raisons d'être encore plus reconnaissant de ne pas avoir pu fuir le Seigneur et ses tendres soins envers lui. Mais il n'a pas cherché Dieu volontairement. Il se trouvait dans un lieu où Dieu le rencontre. Et justement, j'ai intitulé ce message « Le fugitif rencontre Dieu ». Le fugitif qui rencontre Dieu. Il craignait peut-être que le Dieu de son père l'abandonnera parce qu'il quittait la terre promise. Il avait certainement toutes les raisons de s'attendre à au moins quelques mots de réprimande très sévères pour la tromperie qu'elle avait pratiquée sur son père. Vous savez, Jacob, je pense que le mot hébreu, ça veut dire « chacal », c'est lui qui triche, un trompeur. Il a triché son père avec l'aide de sa mère. Il a triché son frère pour prendre le droit d'aînesse. Mais peut-être il a pensé que Dieu va me réprimander pour tout ce que j'ai fait. Dieu connaît notre passé. Et personne ici connaît le passé de chacun d'entre nous. Mais Dieu connaît nos passés. D'où nous venons, de ce que nous avons fait de notre vie, de notre passé. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné et ne lui avait parlé que des paroles de bénédiction et d'encouragement, arrosant de le dormeur solitaire des promesses pour ses jours à venir. Quel Dieu de grâce que nous avons! Il assura à Jacob non seulement qu'il lui donnerait la terre de Canaan et le nombre et de nombreux descendants, postérité, comme son père Isaac, l'avait souhaité quand il est a quitté. Regardez les versets 3 et 4. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il donna à Abraham. Mais plus encore, Dieu lui a transmis la promesse qu'il avait précédemment donnée à Abraham et à Isaac. Mais qui, curieusement, Isaac avait omis en bénissant Jacob, quand lui et ses descendants, toutes les familles de la terre seraient bénies. Cette promesse reçoit son accomplissement le plus élevé dans les bénédictions incommensurables et qui coulent vers ceux de toutes les nations qui mettent aujourd'hui leur foi dans l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus sur la croix. Verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ces promesses capitales ont été suivies par des assurances, les assurances de Dieu concernant les besoins personnels et immédiats de Jacob. Après tout, la réalisation des autres promesses, c'est pour l'avenir. Le Seigneur rassure donc gracieusement Jacob de son amour et de sa protection, lui promettant la préservation céleste jusqu'à ce qu'il retourne chez lui en toute sécurité. Les bénédictions sont complètement inattendues. Jacob, il n'a jamais pensé qu'il va rencontrer le Seigneur sur le chemin de sa fuite. Le Seigneur, il va lui bénir à cause de sa promesse donnée à Abraham. Jacob était l'un de nombreuses personnes dans l'Écriture qui ont reçu l'assurance divine. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Son père Isaac avait reçu une telle promesse. Il sera répété plus tard à Moïse, en Exode 3, 12. Dieu dit, je serai avec toi. Dans le long dialogue ou conversation entre Dieu et Moïse, il avait beaucoup de craintes. Il avait beaucoup de doutes s'il peut vraiment accomplir ce que Dieu lui demande de faire. Mais Dieu l'a simplement dit à Moïse, je serai avec toi. À Josué, Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que cette promesse, je serai avec toi. À Gédéon, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon, il était le plus petit de sa maison, sa tribu, mais Dieu lui a donné cette assurance. Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Juges 6, 16. Et à nous aujourd'hui, Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais nous nous inquiétons tous les jours. Nous oublions cette promesse et nous inquiétons dès qu'il y a une petite chose arrive. On n'arrive pas à résoudre un petit problème. Un petit souci, tout de suite on commence à plaindre, on commence à lamenter. Mais Dieu dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, 6. La promesse de Dieu, je ne vous quitterai pas avant de l'avoir fait, ne signifiait pas qu'une fois que Dieu aurait accompli sa parole, il abandonnerait alors Jacob. Si vous lisez la vie de Jacob, le Seigneur n'a jamais abandonné Jacob, même malgré les choses qu'il a fait. Jacob, il n'était pas toujours droit. cette caractère de arnaquer, de caractère de tromper, s'était collé sur lui toujours. Mais Dieu lui a jamais abandonné. Il a plutôt fourni l'assurance nécessaire que ses promesses seraient effectivement accomplies. Sa présence et sa protection travaillaient à leur réalisation. Jacob a reçu non seulement la sécurité de la promesse de Dieu, des bénédictions futures, mais la garantie de la bénédiction actuelle de Dieu, de sa présence, exprimée à la fois positivement, je suis avec toi, et négativement, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Dans les mythes assyriens, babyloniens mentionnés ci-dessus, les dieux ne sont pas descendus du ciel eux-mêmes. Mais Jacob était assuré que Dieu de ses pères non seulement pouvait, mais le ferait. Et que lui, le Dieu du ciel, serait son compagnon indéfectible. Jacob avait maintenant non seulement la promesse de la terre promise, mais la promesse de la présence de celui qui l'a promis. Dieu l'a donné cette promesse de la terre promise. Il a dit que vous entrerez dans le pays j'ai promis pour vous. Mais il avait la promesse de la présence de celui qui l'a promis. Mais Jacob était certainement conscient que Dieu avait dit un jour à son père. En Genèse 26, 3, 5, je vais lire pour vous. Genèse 26, 3, 5. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Mais Jacob savait qu'il n'allait pas rester dans la terre promise. Il le laisserait loin derrière lui. Et donc, pour éviter tout doute de la part de Jacob, Dieu donne à Jacob une promesse supplémentaire. Il s'engageait à garder, c'est-à-dire à surveiller, garder, prendre soin de Jacob partout où il allait. À cette époque où le cœur de Jacob était rempli de regrets pour le passé, de solitude pour le présent et d'incertitude quant à l'avenir, Jacob il a quitté la maison familiale, il a quitté ses parents de peur d'être tué par son frère Ésaü. Certainement il avait beaucoup de regrets dans sa vie. Mais souvent quand on est seul dans la solitude, nous comprenons beaucoup de choses et nous regrettons. Et Jacob était rempli de regrets pour le passé, de solitude pour le présent. Il n'avait que la solitude comme compagnon. Il n'avait personne autour de lui, à côté de lui, et d'incertitude quant à l'avenir. Mais il ne savait pas qu'est-ce que ça va passer dans les jours à venir. Il savait simplement qu'il va aller chez son oncle Laban. Il ne savait rien du tout. Mais quand nous lisons l'histoire de Jacob, nous voyons comment il a galéré pour avoir des choses. Dieu a gracieusement fait alliance avec lui, comme il l'avait fait avec Abraham et Isaac. Combien cette assurance supplémentaire à Dieu signifiait pour Jacob à ce moment-là, comme il a dû le chérir. Quel Dieu merveilleux et prévenant nous avons. Verset 16 de chapitre 28, Genèse. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Jacob n'a pas choisi cet endroit pour passer la nuit. Il faisait déjà nuit et voyager la nuit n'était pas possible à l'époque. Mais nous, on est habitués à vivre dans la nuit. Ah, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais si vous allez promener à Paris dans la nuit, mais où on trouve, surtout on est déconfiné maintenant, on demande si Paris vit la nuit ou le jour. Et à l'époque, on ne peut pas voyager la nuit, car il n'y avait pas la lumière, il n'y avait que la lumière naturelle. C'était comme si nous arrêtons à une aire de repos durant notre voyage en voiture. Hein, parfois, ça nous arrive d'arrêter pendant 2 heures pour dormir, car on est fatigué par le voyage, on devrait dormir, donc on peut garer dans une aire de repos pour reposer. Et c'est ainsi que Jacob, dans cet endroit, il ne connaissait même pas le nom de cet endroit, et il a arrêté pour dormir. Et voyez ce qu'il a dit sur cet endroit. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Et c'est comme si que l'Éternel attendait Jacob dans cet endroit, où personne n'est passé dans cette heure-ci. Je ne sais pas combien de personnes présentes ici ce matin diraient comme Jacob, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. On peut appliquer ce passage à notre vie chrétienne. Et certainement, l'Éternel est en ce lieu. Je parle de ce lieu ici. Et je ne le savais pas. Dieu devait dire à Moïse que l'endroit où il se tenait était un lieu saint et qu'il devait enlever ses sandales. Bien sûr, il ne le savait pas que l'Éternel, il était là. Combien de fois les hommes aiment fermer les yeux et s'imaginer que Dieu ne les voit pas. Combien de fois les hommes fuient la présence de Dieu pour découvrir que Dieu ne les a jamais abandonnés et que ses yeux errants veillaient sur eux-mêmes lorsqu'il était seul dans le désert ou dans la profondeur de l'océan, comme dans la vie du prophète Jonas. Regardez dans le psaume qu'on connaît bien, mais ce serait bien de lire une partie de ce psaume 139. On va lire à partir de verset 1. Certainement, l'Éternel était en ce lieu et moi, je ne le savais pas, dit Jacob. On va lire le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ça, c'était le cas de Jacob. Il s'abritait pour la nuit dans cette ville, dans cet endroit, tout seul, quand il n'y avait personne, quand le vent hurlait autour de lui. Il était caché du monde entier. Mais comme le psalmiste le dit, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Oui, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit certainement, l'Éternel en ce lieu et en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Plusieurs sont endormis pour reconnaître la sainte présence de Dieu. Vous venez ici dans ce lieu à Saint-Denis parce que vous fréquentez ce lieu tous les dimanches matin depuis de nombreuses années. Ou bien êtes-vous venu en tant que spectateur pour savoir ce qui se passe par simple curiosité? Quelle que soit la raison, savez-vous que cet endroit est la maison de Saint-Dieu et que sa présence est là pour cette sainte convocation? Combien de chrétiens sont dans un esprit endormi pour comprendre cette vérité comme Jacob qui s'éveilla de son sommeil pour comprendre? Je ne le savais pas. Et on ne peut pas limiter Dieu à un endroit. Si ça, c'est la maison de Dieu, aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens qui se rassemblent pour l'adorer. Et chaque lieu, c'est la maison de Dieu. Dieu l'habite parmi eux. Et notre Dieu, si grand et magnifique, on ne peut pas mettre dans une bouteille pour dire que voilà, tu restes ici. Mais est-ce que vous arrivez à reconnaître la maison de Dieu? La maison de Dieu, ça peut être chez vous. Ça peut être dans le lieu de travail. Mais est-ce qu'on arrive à reconnaître la maison de Dieu? Et notre cœur est la maison de Dieu. Dieu l'habite dans notre cœur. Est-ce qu'on peut dire que c'est la maison de Dieu et je ne le savais pas? Regardez le verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Si vous pensez que vous êtes chrétien et que le christianisme est votre religion, ok, je dirais que c'est bien. Mais savez-vous que la religion ne change personne? La question est de savoir si vous avez rencontré Dieu de votre religion. De christianisme, le Dieu de la Bible. La vision de Jacob l'a changé. Il avait peur et pouvait sentir la présence du Saint-Dieu vivant. Il a pu reconnaître le chemin vers Dieu. Vous vous souvenez de la vision d'Isaïe qui a changé sa vie? Cela devrait changer votre façon d'approcher Dieu et son corps qui est l'Église. Si vous êtes convaincu que c'est la maison de Dieu, c'est facile à dire que c'est la maison de Dieu. Si vous êtes convaincu, si nous sommes convaincus que c'est la maison de Dieu, quel type de révérence que nous montrons envers la maison de Dieu? Et quand on dit la maison de Dieu, c'est maintenant, et ça inclut tous les croyants, tous les frères et sœurs. Quelle attitude que nous avons envers la maison de Dieu? Est-ce que nous faisons tout pour être à l'heure? Est-ce que nous faisons tout pour être dans le bon état d'esprit? Quelle révérence que nous montrons envers la maison de Dieu? Les versets 18 et 19. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. L'adoration naît de la vision. L'adoration naît de la vision. Il ne peut y avoir d'adoration sans la vision de Dieu. Si nous n'avons pas la vision de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas adorer. Vous ne pouvez pas adorer quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas admirer quelqu'un. Adoration, c'est aussi l'admiration. quand on dit que Dieu est grand, Dieu est merveilleux, c'est nous montrons notre admiration. Et si nous ne connaissons pas cette personne, Dieu en tant qu'une personne, si nous ne connaissons pas Dieu personnellement, on ne peut pas lui adorer. Il ne peut y avoir d'adoration sans la vision de Dieu. L'acte d'adoration de Jacob, nous le comprenons, c'est à cause de la vision de Dieu qu'il a eue cette nuit-là. Il change le nom de la ville de Luz. Luz, ça veut dire séparation. À Bethel, maison de Dieu. Beth, c'est la maison, comme Bethléem, la maison du pain. Et Beth, elle, c'est Dieu, maison de Dieu. On va terminer avec le dernier verset 20, le chapitre 28 de Genèse. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. » Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Là encore, Jacob semble négocier avec Dieu. Un businessman, il est toujours un businessman. Il ne change pas. Même à l'église, parfois, on peut sentir ça. Un businessman reste un businessman. Il semble en fait négocier moins que ce que Dieu lui avait promis. Mais Dieu a promis beaucoup de grandes choses, de bonnes choses. Mais son caractère revient à galop. Il commence à négocier pour avoir de moindres choses. Sa foi n'était pas assez forte pour prendre Dieu à sa parole. De sorte qu'il devait conditionner sa dîme à l'exécution par Dieu de sa part de l'accord. Dieu lui avait promis beaucoup plus. Il a promis sa présence à ses côtés, sa protection divine et sa providence. On dit « chasse le naturel, il revient au galop ». Même après avoir rencontré Dieu, nous trouvons l'homme d'affaires en Jacob. Et parfois, nous avons tous, j'espère, nous avons rencontré le Seigneur, mais nous avons cet homme, ancien homme en nous, qui vient, qui de temps en temps, monte sa tête. Et faisons des affaires avec Dieu comme il a fait avec son frère Ésaü. Et nous, quelle est notre manière de se conduire avec Dieu? Est-ce que les gens, ils disent que, voilà, Seigneur, si tu me donnes ça, je te donnerai. On marchande avec Dieu, mais sans reconnaître notre petitesse et la grandeur de Dieu. Si Dieu me fait ça, je ferai cela. Mais qui nous sommes pour marchander avec Dieu? Qui nous sommes pour faire la condition avec Dieu? Poser des conditions. Nous sommes là simplement pour adorer. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Rien d'autre raison à part cela. L'échelle que Jacob a vue dans son rêve est Jésus lui-même, qui a fait le pont entre le ciel et la terre. À cause de la péché de l'homme, la communication entre le ciel et la terre était rompue. Et c'est le Seigneur Jésus qui a descendu sur cette terre pour faire cette communion possible. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'homme ne peut pas tendre la main à Dieu. Aussi bon soit-il, il peut aspirer à Dieu, il peut soupirer auprès de Dieu, mais c'est toujours Dieu qui tend la main à l'homme. Quel merveilleux sauveur. Prions. Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous te remercions pour chaque page de ta sainte parole. Seigneur, merci d'avoir conservé ta parole jusqu'à nos jours, Seigneur, puisqu'on peut lire dans notre propre langue. Seigneur, pour comprendre ta parole, pour comprendre le message que tu as mis pour nous. Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Seigneur, tu nous aimes éternellement. Tu nous as aimés même avant la fondation de ce monde. Seigneur, nous ne sommes pas très différents que Jacob. Nous ne savons notre état, mais tu nous as toujours aimés et tu es venu vers nous pour nous sauver. Seigneur, nous te remercions pour cette échelle qui était mise entre la terre et le ciel. Seigneur, merci parce que tu t'es révélé toi-même. Seigneur, nous étions dans le désert, dans la sombre nuit, Seigneur, sans savoir quoi faire et où aller. Mais merci, Seigneur, parce que tu es venu dans notre chemin pour nous rencontrer un jour. Nous te remercions pour ce salut précieux. Seigneur, aide-nous à contempler ta merveille, les merveilles qui est dans ta parole. Seigneur, aide-nous à adorer ce Dieu saint en toute vérité. Seigneur, enlève tout ce qui est faux en nous. Seigneur, rends-nous semblables à notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. En ton nom, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.